vous êtes toujours avec nous sur Bac FM dans CDLP, c'est dans les parages. Aujourd'hui, on va parler théâtre. Essayons de converser sans nous exalter puisque nous sommes incapables de nous taire. Fin de citation, c'est de Samuel Beckett, dramaturge de l'excellente pièce En attendant Godot. À Sainte-Paris-le-Châtel, le théâtre du Risorius propose deux grands rendez-vous au mois de juin. D'abord du 12 au 14 juin avec La Grue Blanche, une création 2026 inspirée du conte traditionnel japonais, un spectacle autour du Kotaro, un jeune homme qui soigne et libère une grue blanche prise au piège. Mais comme souvent dans les contes, la générosité, la gratitude et l'avidité vont venir se croiser. Particularité de ce spectacle, il se joue dans la nouvelle caravane spectacle du théâtre du Risorius, une petite salle mobile, intimiste et même climatisée. Puis du 19 au 21 juin, place à la pièce qui s'appelle À l'abordage Lily, création 2025 sous le petit chapiteau. Cette fois, on suit Lily, une enfant qui rêve d'être pirate pour protéger la nature et les animaux, comme le faisait son père, une histoire d'aventure, de courage, de famille et de dépassement de soi, ainsi que d'écologie. Ces deux spectacles sont proposés au théâtre donc du Risorius, du 11 route de Villars à Sainte-Paris-le-Châtel, au tarif unique de 7 euros. Pour en parler avec moi, j'ai la chance de recevoir Thierry et Nadège du fameux théâtre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue sur Bec FM. Avant de rentrer dans les deux spectacles, est-ce que vous pouvez un peu présenter l'identité de votre théâtre pour les gens qui ne le connaîtraient pas?
On a combien de temps?
On a une bonne cinquantaine de minutes. Donc ça vous donne une bonne marge.
On a simplement 39 ans d'existence et les prochaines 40 ans.
Ah, peut-être pas faire tout l'historique, mais
il faut savoir ce qu'on veut. Hein.
Pour les gens qui connaîtraient pas, on vous demande de présenter comment vous le brieferez.
C'est une compagnie de théâtre qui est en direction du jeune public et du public familial. Donc quand on dit jeune public, alors tout le monde croit que c'est que pour les enfants. Nous sommes des adultes, nous écrivons des textes, parce que la plupart des spectacles que l'on crée sont des créations. Même là, si on est parti sur l'idée d'un conte traditionnel, La Grue Blanche, on est parti de l'idée, oui. Puis après, on va nous travailler en fonction des thématiques que l'on va aborder et orienter le spectacle, soit sous différentes formes, parce qu'on travaille aussi bien l'ombre, les marionnettes, le travail masqué, le travail de comédien, parce qu'on a fait d'autres, plein de trucs, quoi. Et la particularité qu'on a, pour ceux qui nous connaissent, c'est qu'on arrive parfois à mêler différentes techniques. C'est-à-dire que c'est pas très commun, ça le devient un peu plus, mais ce qui a fait un peu aussi notre succès, il fut un temps, c'est qu'on mélangeait en fait les formes, et c'est vrai qu'on n'avait pas l'impression d'un changement ou d'une modification. Donc ça, c'est un peu notre particularité. On a voyagé dans 26 pays, on joue les spectacles en trois langues, anglais, français, italien, et puis
espagnol,
oui. Et puis on a même des fois inventé du langage avec le spectacle Volpino ou Petit Ours. C'était des spectacles qui ont été joués à travers le monde, qui ont été joués, je ne sais plus, 4800 représentations pour donner une idée, quoi. Voilà.
La Grue Blanche donc est inspirée d'un conte traditionnel japonais. Je me demandais comment avez-vous choisi cette histoire, qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce conte? Alors là, pour les gens qui nous écoutent, ils sont en train de se décider qui va parler en premier, et il y a hésitation entre les deux dirigeants,
Le décideurs, conte japonais, si on a fait un cycle à un moment sur les cultures du monde. Donc on a travaillé sur les Inuits, on a travaillé sur la Mongolie, sur la Chine. Là, dernièrement, on a monté un texte autour de la culture indienne.
Amérindienne,
avec Anoki, qui va être joué au Festival d'Avignon cet été. Et puis, on a joué aussi sur la culture indienne, avec des marionnettes d'ombre indonésiennes, voilà, sur le Ramayana. Et puis, dans ces cycles, il y a eu aussi le cycle Japon. On a monté Yamamba, un spectacle qui a eu un énorme succès il y a quelques années. Et puis, Le Coupeur de Bambou et ce texte qui était de côté, qu'on avait écrit, qu'on n'a pas beaucoup joué. Donc, on a repris, reformulé un peu le spectacle. Et dans l'idée de dire, sur les thématiques qu'on aborde à travers ce texte, c'est sur l'indécision, quand on regarde autour de nous, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui ont du mal à faire des choix, quoi. C'est complexe de faire un choix, parce qu'on risque de perdre quelque chose.
Choisir, c'est renoncer.
Voilà.
Je ne sais plus de qui c'est, mais c'est une citation, c'est une certitude. Mais...
Voilà. Et donc, du coup, si tu veux, c'est intéressant de dire aussi à maman, même si on s'adresse à un public à partir de 5 ans, c'est aussi bien pour les adultes. Là, on a fait quelques séances au mois d'avril. Les gens étaient assez stupéfaits de l'approche de ce spectacle, aussi bien par sa forme, par des marionnettes qui font presque 80 cm, et de ce qu'elle propose au niveau de la vision sur cette société, quoi, mais sur notre société actuelle. C'est-à-dire qu'elle apporte vraiment un regard sur notre société actuelle, sur les différences, sur l'avidité, sur...
Sur le rapport à la famille également, ouais. Bah, le poids qu'on peut avoir, bah, nous, dans nos familles. la maman, la mère, ou on peut dire aussi la belle-mère, qui va être assez... va penser un petit peu qu'à elle. Et du coup, qu'est-ce que ça amène chez le jeune adulte? Est-ce qu'il va pouvoir faire ses choix par lui-même?
Le spectacle parle donc de générosité, de gratitude, d'avidité. C'était important pour vous de relier ces grands thèmes, ces grands principes j'allais dire à l'actualité, mais en tout cas le lien à une forme de société actuelle. Vous venez d'évoquer la parentalité.
Mmh. Oui, tout à fait. Après, on a toujours ces réflexions quand on écrit un spectacle. On a une histoire à la base qui va parler de plein de choses, mais forcément on le relie à la vision qu'on peut avoir aussi de la société et à ce qu'on aimerait. Faire pouvoir réfléchir les personnes qui vont venir voir ce spectacle.
Du moins les questionner. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on va voir un spectacle, l'idée c'est de dire à un moment, est-ce que les gens vont repartir avec quelque chose et est-ce qu'ils vont essayer d'en rediscuter ensemble ? C'est vrai qu'on a une société de plus en plus individualiste autour des écrans, de l'IA maintenant, qui vient foutre le bazar aussi parce qu'il répond à tout. Et puis en fait, on arrive à plus répondre à quoi que ce soit, on ne sait plus, on hésite. Le rapport au choix, le rapport à notre pensée aussi, qu'est-ce qu'on vit et comment on le vit et pourquoi on le vit. Et souvent, on veut confier ça, comme on entend autour de nous, Tina, qui est notre fille, elle me dit « Ah ouais, les copines, tous les jours, elles parlent à l'IA ». Ouais, super, mais quand est-ce qu'elles parlent vraiment à quelqu'un de leurs problèmes, de leurs... je sais pas, nous on discute des fois de soucis qu'il y a là, on rencontre, on va pas en parler à l'IA, on va nous en parler à nous pour essayer d'arriver à échafauder un certain nombre de réflexions, pas obligatoirement des vérités, parce qu'on les a pas.
Bah, l'IA non plus, hein, d'ailleurs.
Oui, mais en même temps de pouvoir... Oui, mais pour les gens, c'est quand même une source véridique, c'est comme, tu vois, le rapport à l'information avec les réseaux sociaux... Avant, c'était la télé, elle disait juste, et puis maintenant, c'est les réseaux sociaux, comme toi, ah oui, sur Facebook, ils ont dit si. Mais elle vient d'où, ton information? De Facebook, ouais, mais qui est-ce qui l'a? C'est un mec, là, moi, je dis souvent ce qu'il dit, mais on ne contrôle pas l'information, on est tous dans ces rapports-là. Donc, ça fait que du coup, on est quand même dans une scission de relations, c'est-à-dire, on ne parle plus. On dit, l'autre fois, j'étais au spectacle. Je vois les gens, ils étaient contents. Bon, tu t'approches et puis tu dis, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, c'était poétique, point. Donc voilà, après tu te dis, c'est quoi les échanges? Comment on va arriver à aborder tout ça? Donc le spectacle, pour moi, c'est surtout un moyen de pouvoir échanger et de partager. Hein, de ramener en fait du lien social à travers des sujets de société, même avec les enfants. Comme je dis, on a eu des spectacles qui parlaient de la mort, il y a des spectacles qui parlent de liberté,
de différence.
Sur la différence. Et c'est vrai que tout le monde est plus ou moins confronté à ces thématiques. Et c'est vrai que si on les approche plus, on n'en débat plus. Ça devient compliqué parce qu'on est un peu paumé, quoi, et on se réfugie, comme je dis, sur l'IA, sur ces trucs qui sont...
Après, il y a aussi le fait de venir à un spectacle, d'avoir cet acte de venir participer à un spectacle avec un public, c'est-à-dire d'être plusieurs à vivre les émotions aussi ensemble et après pouvoir en parler. Et c'est vrai que même là, quand les quelques fois on a joué dans la caravane spectacle, du coup ça amène aussi ce rapport d'intimité où on vit quelque chose ensemble. Et c'est vrai que quand les gens ressortent, ils sont là, ils ont vécu vraiment comme une aventure ensemble. Ils ont pu échanger aussi à la fin, on échange toujours avec tout le monde. Donc ça aussi c'est important parce qu'on n'est pas devant notre écran, on partage quelque chose avec les autres, quoi.
Pour ce spectacle, vous utilisez des marionnettes inspirées du Bunraku. Alors là, je parle sous votre surveillance pour la prononciation. En Europe, on a une culture assez historique avec les marionnettes. Hein, je pense évidemment au Guignol de l'Info ou au Muppet Show pour les plus américains d'entre nous. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le Bunraku ?
En fait, le Bunraku, c'est un art japonais millénaire. En fait, on travaille avec une marionnette qui est articulée, les mains articulées, les bras articulés, les jambes, la tête, ça cligne des yeux, ça ouvre la bouche, et ainsi de suite.
Les marionnettes font généralement à peu près un mètre de hauteur.
Un mètre vingt de hauteur, quoi. Et ça peut être manipulé jusqu'à 5, voire 6 manipulateurs en même temps. Voilà. Et, mais elles ne parlent jamais. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, il y a une personne qui est là, qui va raconter l'histoire, et la marionnette va suivre en fait la progression du personnage et va donner en fait des respirations visuelles et assez émotives aussi importantes.
Il y a un seul narrateur qui va faire d'ailleurs tous les personnages, toutes les voix de tous les personnages et qui sera accompagné d'un une sorte, alors soit c'est juste un musicien tout seul, parfois ils sont comme un orchestre mais et qui va accompagner enfin avec la musique. Alors nous on n'a pas forcément un narrateur et un musicien avec nous, mais par contre, comme dans l'art du Bunraku, on est habillé tout en noir et avec aussi une cagoule noire pour vraiment essayer de disparaître au maximum et que ce soit vraiment
juste... De s'effacer derrière la narration.
Voilà, et derrière les marionnettes, surtout.
Surtout les marionnettes, en l'occurrence.
Et donc voilà, ça, on a vraiment gardé cet esprit-là.
Après, il y a une personne par marionnette.
Oui.
Voire, des fois, on a deux marionnettes. Mais... c'était plus le principe en fait de dire on fait une focalisation sur le jeu, on est vraiment sur un jeu théâtral, même avec les marionnettes, et pas simplement dans une narration, c'est vraiment un texte théâtral quoi.
Oui.
Et donc du coup ça amène, comme disaient les gens, c'est surprenant parce qu'on vous voit plus, vous êtes là, comment on voit les marionnettes, alors ça marche, mais comment vous faites pour dire ça, pour faire ci, pour faire ça, tu vois, c'est intéressant aussi.
Et même les adultes voilà, qui l'ont vu, ils ont vraiment été... Enfin, ça les a surpris de se faire embarquer comme ça dans l'histoire et de dire, oh oui, vraiment... et d'être touchés par ces marionnettes, quoi, vraiment.
La Grue Blanche se joue dans votre nouvelle caravane spectacle. Comment est née cette idée de petite salle mobile ?
Oui, il y a longtemps.
Oui, ça longtemps. C'est aussi une des particularités du théâtre du Risorius.
On a commencé par fabriquer un premier petit chapiteau. Hein, de 50 mètres, moins de 50 mètres carrés, qui a été normalisé, tout, il n'y a pas de problème.
Et qui est toujours installé chez nous.
Ensuite, on a fabriqué un chapiteau de 350 mètres carrés, qui est
plus grand
aussi, oui. Voilà, il va accueillir jusqu'à 250 personnes. Ensuite, on a fabriqué en même temps, c'était presque la même année, j'ai fabriqué une roulotte spectacle, où il y a le spectacle Volpino dedans, une caravane, disons, une roulotte qui faisait 8 mètres de long, 2,50 mètres de large, 4 mètres de haut.
Avec un gradin à l'intérieur et puis tout le décor pour le spectacle.
Après, il y a eu un bus théâtre et ensuite un camion spectacle avec Topolino dedans. Voilà, c'était un peu la particularité de la compagnie d'être autonome et de pouvoir aller jouer où on veut en fait. Et on veut retrouver un peu ce système-là. C'est-à-dire que là, on a tout vendu, les véhicules, spectacles, parce qu'au moment du Covid, c'était un peu compliqué. Et économiquement, je pense qu'on aurait été mort. Et du coup, là, on reconstruit une caravane pour aller de nouveau à la campagne, pouvoir gérer sur les petites places de village, faire un peu comme les théâtres ambulants qu'il y avait au début du siècle, ou après-guerre.
D'aller un peu au-devant du public, en fait, de pouvoir amener le spectacle partout.
Voilà.
J'imagine que jouer dans un espace aussi intimiste, intime, change un peu le rapport avec le public quand même.
Oui, bien sûr,
ah oui,
on a une proximité qui est assez fulgurante, parce que comme disaient les gens, il suffit de tendre la main pour pouvoir toucher les marionnettes, quoi. Et là, on retrouve un peu ce système de proximité, et puis de, comme, pas de communion, mais ce qui est marrant, si tu veux, c'est que tu as 25 personnes dans cette caravane. Donc t'es les uns contre les autres, tu rigoles, bah l'autre il sent que tu rigoles. Bon, c'est pas non plus avec une aussi grande proximité, mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comme les petits commentaires l'autre fois d'une petite gamine qui était venue voir le spectacle. Bah, elle est méchante, la dame. Là, ce coup, t'as tout le monde qui rigole. Oui, elle est méchante, oui, c'est vrai. Mais tu vois, ça.
Ça crée un semblant d'interactivité, j'ai l'impression.
Oui, puis c'est surtout le rapport entre les gens. D'un seul coup, ils sont ailleurs. Voilà.
Ils sont ailleurs et ensemble.
Et ensemble. C'est ça que je trouve fort dans ces petits lieux. Où c'est comme dans le chapiteau, où d'un seul coup, on est sur une petite jauge, tu vois, 40, 45 places. Et puis, t'as les gens qui sont là, tu vois, ils regardent, ils peuvent se voir, ils regardent le spectacle. Et puis, tu vois, des fois, ils tournent la tête vers les enfants, des fois, ils tournent la tête vers moi, parce que moi, je suis toujours en train de mimer ou de jouer, où Nadège joue. Et c'est marrant, tous ces rapports d'interaction qu'on ne retrouve pas devant le cinéma devant notre télé, quoi. On n'est pas du tout dans le même rapport, quoi.
Et puis il y a le côté insolite aussi de la caravane, hein. On la voit de l'extérieur, on se dit bon, déjà on est curieux de savoir comment ça va pouvoir se passer à l'intérieur, et puis voilà, quand on rentre on dit waouh, c'est incroyable, on peut être tous dedans, et puis voilà, c'est chouette.
Un petit détail qui a son importance, je crois, au vu des chaleurs en France, la caravane est climatisée.
Oui.
C'était une nécessité, au vu du contexte climatique actuel, si j'ose dire.
Il y a 25 personnes à 37 degrés.
Ça commence à être tendu. Ouais.
Donc ça fait, tu vois, un peu ce que ça provoque comme chaleur. C'est trois radiateurs à l'intérieur de 1000 watts, quoi.
Oui.
Donc du coup, t'es obligé un peu de climatiser.
Même pour jouer, j'imagine que c'est autre chose.
Oui, on a chaud, nous, parce que...
Vous bougez de partout, je suppose.
Oui, puis...
puis la proximité, quoi.
La proximité aussi, voilà, quoi. Elle dégage beaucoup de chaleur, Nadège.
Et à l'inverse, c'est bien chauffé en hiver.
Du 19 au 21 juin, vous présentez à l'abordage Lily, sous votre petit chapiteau cette fois.
Oui.
C'est qui, cette Lily?
Ah. Ben comme vous l'avez dit, très bien dit dans votre introduction. Donc.
Merci.
Donc oui, c'est une jeune fille, voilà, qui vit au bord de la mer, et en fait son père était, elle le voyait comme un pirate qui allait sauver les animaux et la nature, etc. Mais malheureusement, il a disparu en mer. Mais elle a toujours eu à cœur de vouloir rester dans la veine de son père et continuer à défendre ses valeurs. Et donc, en fait, elle est toujours dans ses histoires. Elle va toujours essayer de trouver une nouvelle mission, une nouvelle aventure. Et bon, elle va finir par tomber sur une bouteille avec un message à l'intérieur. Et donc, voilà sa prochaine mission qui arrive. Elle va peut-être devoir aller sauver un petit tigre dans un cirque.
Tout un programme.
Oui.
Voilà. Lily, en tout cas, je crois qu'elle rêve de protéger la nature et les animaux.
Voilà.
C'est encore une manière de parler... d'écologie via le prisme de l'aventure.
Oui, alors ça c'est une thématique qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Enfin, on a plusieurs spectacles qui essayent d'aborder cette thématique-là. Et c'est vrai que comme on se dit, on fait des spectacles notamment pour les enfants, mais voilà, aussi pour les adultes. Et bon, c'est vraiment, enfin pour nous, c'est vraiment l'enjeu de notre siècle. Et on aimerait vraiment que ça puisse être une façon de pouvoir transmettre ces valeurs-là à la future génération qui arrive. Et on le sait qu'ils ont cette valeur-là maintenant, mais il faut continuer à agir pour ça. Enfin, et puis à les pousser à agir et à montrer par ce spectacle, notamment l'abordage Lily. On veut vraiment aussi... c'est un message pour dire que... même à notre petite échelle, on peut tous faire quelque chose et il faut le faire. Il faut le faire.
Dans l'histoire, il y a aussi son frère qui l'aide grâce à ses inventions, malgré son handicap.
Mm-hmm.
Encore une fois, un sujet, j'allais dire militant, c'est pas le mot, mais en tout cas un combat que vous voulez porter.
Oui, oui. Et c'est ça. Et comme je vous le disais juste avant, tous, on peut tous agir par rapport à ça et s'aider les uns les autres. Et ce qu'on voulait aussi, parce qu'on a aussi des enfants qui sont un petit peu plus grands que là, nos deux filles qui sont plutôt dans la dizaine. On en a qui sont plutôt dans la vingtaine et on voit que cette génération-là aussi est très concernée par l'écologie et l'avenir de la planète, en fait, tout bonnement. Et qui, en même temps, ils ont l'impression qu'ils sont, qu'ils ont du mal à s'engager et à se dire, il y a plutôt être des fois défaitiste.
Une forme de fatalité.
Exactement, une fatalité et en même temps quelque chose qui les ronge. Et c'était aussi une façon pour nous de dire, faut garder espoir, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. On peut y arriver.
Et puis persévérer même face aux obstacles, c'est surtout ça qui est important.
Oui.
Ce que j'aime bien dans le spectacle, c'est Nadège qui a écrit ce texte, hein. C'est son premier texte toute seule, comme une grande. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est le rapport aussi à la persévérance. C'est-à-dire, il y a des difficultés, certes, mais il y a toujours des solutions. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans un rapport, comme vous disiez tout à l'heure, fataliste, où d'un seul coup, nous arrive un truc, ah ben, on ne peut plus, c'est fini. Non, on trouve une solution pour essayer de la dépasser. Et je crois que c'est ça aussi qui est important dans le message du spectacle, c'est d'essayer d'arriver à faire comprendre aux gens que on est tous individuellement concernés par ces problèmes d'écologie, de réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? On dit on ne sert à rien. Jouer avec les filles l'autre fois, on a pris les sacs poubelles, on a fait le tour de notre maison, la route qui tourne autour. On a ramené deux sacs de déchets, si tu veux, de poubelles de déchets, hein, mais vraiment. Ça commence par ça aussi. Hein. C'est vrai que le plastique, ça pollue énormément. Alors après, c'est symbolique. Mais ce symbolisme-là aussi montre qu'on peut agir aussi. C'est-à-dire que ça, c'est important. On a plein de gens qui jettent des détritus par les fenêtres de voiture ou avec leur mobylette. Et puis on se dit, mais merde, c'est quand même... Comme dans le spectacle d'Anoki, la Terre, c'est notre mère à tous. C'est le message des Indiens par rapport à ça. On dirait que c'est important aussi, sinon on la salit à notre échelle ou individuellement, on la salit pour tout le monde aussi. Et c'est ça qui est important. Alors après, on dit, oui, mais l'industrie, il y a ci, il y a ça. Oui, mais nous aussi, en tant qu'individu, on peut essayer d'arriver à avoir pas simplement bonne conscience, mais aussi bonne confiance en nous par rapport à ça.
J'ai l'impression que ce fatalisme, cette espèce de défaitisme, vous avez... du mal à le comprendre quelque part. On sait que c'est les personnes les plus aisées qui polluent le plus et que ceux qui en pâtissent sont les personnes les plus précaires en majorité, alors que ce sont elles qui émettent le moins, paradoxalement. le fatalisme, en tout cas, moi je peux le comprendre quelque part.
Ah oui. Non, mais on le comprend. Et justement, c'est aussi ça de se dire que on pourrait tous facilement perdre espoir, en fait. Et le spectacle vivant, je pense que c'est ça aussi, c'est de dire que...
C'est déjà... une forme de résistance
au
fatalisme, et aussi, quand on n'a plus espoir, tu sais,
En fait, il y a trop d'informations, il y a trop de choses qui nous disent que ça... En fait, on court droit dans le mur, mais si... Et en fait, en même temps, il faut aussi savoir qu'il y a énormément de gens qui se mobilisent et qui font des choses qui... Il y a plein d'actions qui existent, plein de gens qui font des choses qui peuvent faire avancer, qui peuvent nous faire avancer vers un avenir en fait meilleur.
Et puis ce qui est important aussi, comme on dit, il y a des associations, il y a tout ça. Dès qu'on adhère à des associations comme ça, on n'est plus seul. Ce que je veux dire, c'est ça aussi. Ouais. Souvent, c'est aussi l'individualisme qui est là. On dit, j'ai envie de faire quelque chose. Oh, mais moi, tout seul, quoi ça sert? On se rapproche d'autres personnes. On essaye de mener nos combats ensemble, de réfléchir aussi et de se poser des questions par rapport à certaines choses. Moi, je vois, on a des copains qui sont hyper à fond. Comme je dis, c'est super, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ouais, je veux dire, c'est quoi ton action? C'est bien beau de gueuler, c'est bien beau de dire c'est naze, bien beau, ça sert à rien.
C'est français ça. Comme...
Oui, mais bon, t'es là, tu te dis à un moment, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, à part gueuler, c'est bien, mais quand est-ce que tu agis?
Ça fait du bien de vous entendre un peu parler de couleurs dans ce monde en noir et blanc. donc c'est vous qui l'avez écrite, c'est ça la pièce?
Oui.
Comment, tout à l'heure on parlait de murs, de réseaux sociaux, tout ça, d'intelligence artificielle, comment on écrit pour des enfants? J'ai bien compris que c'était aussi ouvert à tout le monde, mais entre autres pour les enfants, quand on sait que le temps d'attention est très réduit, c'est difficile, encore plus quand on est jeune, de se concentrer sur des choses longues. Là je sens déjà que ma phrase commence à s'étirer un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de côté scrollé.
Justement, non, mais c'est une très bonne question, parce que dans le spectacle, dans ce spectacle en particulier, et de par la mise en scène aussi, donc la partie Ri, on a aussi voulu agir là-dessus. Parce que donc la mise en scène est très épurée. Enfin, il y a juste moi sur scène, juste quelques petits tabourets pour représenter le décor. Ces tabourets vont bouger pour en fait faire des espaces différents au fur et à mesure du spectacle. Et on avait justement envie de se dire, Bah oui, en fait, nos enfants, et nous aussi, et surtout nous, on est tout le temps, on est bombardé de choses sur nos écrans, enfin, on a tout le temps ce rapport aux écrans qui est très fort. Et on avait envie de se dire, mais bon sang, on a un imaginaire qui existe, et nos enfants, on leur donne des choses qui sont déjà toutes imaginées pour eux, toutes inventées pour eux, les films, les jeux vidéo, les machins. Alors que eux, ils sont vraiment dans l'âge en plus où ils peuvent se le créer complètement.
Il n'y a pas d'âge pour ça.
Et non, voilà.
Après, c'était marrant parce qu'il y avait une réflexion d'une institut qui est venue voir le spectacle l'autre fois. Et elle était retournée, c'est-à-dire celle-là, bouleversée. Et elle me dit, moi je raconte des histoires, parce qu'elle a été avec des maternelles. Elle me dit, là j'en reviens pas. Mais je dis, qu'est-ce que je suis bête. À chaque fois que je raconte une histoire, je montre une image.
L'image du livre ou quelque chose, un support.
Je dis, les gamins, ils sont capables. Alors, vous venez de me le prouver. Les gamins sont capables d'imaginer ce que vous dites et sans avoir obligatoirement une référence d'image. Au contraire, je tue leur imaginaire. C'est ça qui était intéressant dans la démarche.
Du coup, elle-même, ça l'a fait
retourner, mais vraiment.
Je
trouve ça super. Tu vois, en même temps, je dis, c'est chouette parce que. Ou c'est comme quand on faisait les spectacles non-verbaux. Alors, des fois, c'était. Dans des endroits où les gens ne parlaient pas toujours bien français, tout ça, ainsi de suite. Mais je disais aux instituts, au contraire, c'est vachement bien, parce qu'on peut verbaliser sur ce que l'on a vu, avec ses propres mots, avec ses propres images. On peut arriver à définir ce qu'on a vu, même si on veut le mimer, peu importe. Moi, la preuve, c'est que je joue pendant 50 minutes sans texte. Là, vous arrivez à un truc où les gamins ont du mal à verbaliser les choses. D'un seul coup, ils vont bien être obligés. Il y a bien des émotions, à un moment, dans le spectacle qui ont fait qu'ils vont pouvoir apprendre. Et bien, c'est le même cas pour ce spectacle.
Oui, puis là, du coup, moi, je fais vraiment tous les personnages. Ça se passe juste avec des tabourets, mais qui vont devenir plein de choses. Et c'est vrai que les gens sont assez sciés, ils me disent mais c'est incroyable, enfin on voit pas le temps passer, on a vu les choses, enfin ils disent mais pareil pour les enfants quoi, c'est ouais. On voit les choses grâce à notre imaginaire, et c'est ça, c'est notre truc, c'est de dire nous on va la façon aussi d'écrire comme vous dites, on va impulser les choses, et c'est votre imaginaire qui va faire le reste, et c'est vrai que ça c'est magique.
Vous lisez plus de romans et moins de BD quoi, en gros, sans les images.
Non, parce que la BD c'est génial bien, aussi. Ah, bah oui, parce que justement c'est un univers complet quoi. Ouais.
Les enfants d'expérience, je crois, réagissent très directement au spectacle. Il peut leur arriver de rire, de parler, de s'exclamer.
Oui.
J'imagine que c'est stimulant, quand on est comédien ou même.
Ah non, pas du tout. Hein.
Non, ça nous ennuie. C'est tout à fait insupportable.
Bayonnez-les avant d'arriver. Hein.
D'ailleurs, il y a un vigile, je crois. Qui s'occupe de ça.
Non, bah oui, bien sûr. Ouais. Et puis chaque séance est différente, du coup, parce que le public fait entièrement partie du spectacle. Donc pour nous, c'est. Le public nous nourrit, et voilà, on essaye de nourrir aussi le public, et c'est une aventure qu'on vit ensemble, quoi. Ouais.
On parlait de jazz dans ce studio, et on citait l'exemple de stand-uppers qui interagissent de plus en plus avec leur public. C'est un truc qui vous plaît, c'est l'interaction, ou est-ce que le quatrième mur est quand même important pour vous?
Non.
Ah non, oui, nous on a toujours été dans l'interaction. Ouais,
depuis le début, mais ça veut pas dire interaction, attention. Parce qu'il y a interaction et interaction. C'est vrai, quand on a une image du théâtre jeune public, on dit « Ouais, venez prendre les bonbons !» Non, on n'est pas non plus pour ridiculiser les gens ou pour les malmener. Non, au contraire, on reste dans une action. C'est-à-dire, dans tous les spectacles, même le premier spectacle que j'ai créé, qui était dans une interaction folle, parce qu'à la fin, c'est les gens qui cherchaient la fin du spectacle.
La solution du spectacle.
C'était la folie, quoi. Tu vois, quand t'as 400, 500 personnes qui sont en train d'hurler, tu vois, où tu leur dis couchez-vous, puis tout le monde se couche dans les allées.
C'était super.
Mais je pense que c'est ce genre d'interaction où on emporte les gens dans notre univers.
Oui.
C'est-à-dire, c'est aussi ce rapport-là. On n'est pas en train d'aller les provoquer, tu vois, pour. Non, on cherche simplement à ce qu'en fait, l'interaction amène les gens dans l'histoire de notre spectacle, dans notre approche. Et d'un seul coup, quand tu vois que ça fonctionne, c'est ça qui est chouette, parce que d'un seul coup, tu vois, les dernières représentations où tu fais, il y a un truc un peu répétitif, c'est eux qui y allaient, quoi, tu vois, parce qu'ils ont compris le truc, et puis hop, c'est parti, puis tu dis, mince, c'est super, parce qu'ils sont dedans, quoi.
Ouais.
Et c'est ça qui nous intéresse, l'interaction, elle est plutôt positive, elle n'est pas dans un rapport disons, de maltraitance ou de ridiculiser quelqu'un. Non, ça ne nous intéresse pas, ça.
Dans vos spectacles, on sent souvent le goût du voyage, Japon, piraterie, cirque itinérant. C'est votre façon à vous de vous évader ?
Pas simplement, non, parce qu'on a beaucoup voyagé.
Tout simplement. De faire s'évader les autres, peut-être.
Oui, aussi. Non, mais c'est aussi des rapports différents par rapport aux univers que déjà la culture d'un pays nous apporte. Et en même temps, s'en sert, nous, comme un moyen aussi d'amener comme une grosse loupe sur une problématique qu'on n'aborderait pas aussi sèchement au départ. Quoi. Tu sais, par exemple, si on utilise notre propre culture, on l'a fait, on a écrit des spectacles qui concernent notre société, dans notre société. Et d'un seul coup, quand on transpose un peu dans une autre culture, ça amène un recul et en même temps une efficacité redoutable sur les thématiques abordées.
Je vois que le temps tourne, malheureusement. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous suivre vos actus, peut-être sur Internet ?
Oui, alors déjà, on a notre site Internet, risorius.org. Donc là, vous avez toutes les infos sur les spectacles, sur les tournées. Puis on peut aussi faire... Il y a une billetterie aussi en ligne pour les prochains spectacles, notamment. On est sur Facebook, comme des anciens.
Il y a encore quelques jeunes sur Facebook. Je pense que vous appelez jeunes.
Donc, Théâtre du Risorius. Et puis après, on est aussi sur Instagram. Donc, je crois que c'est Théâtre -du-bas Risorius. Voilà.
Et on vous invite à aller follow, comme disent les jeunes. Donc, pour filer la métaphore. Ben merci beaucoup Thierry, Nadège d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Merci à toi.
Allez,
Robert.
C'est une petite blague en off hein, pour les gens qui n'auraient pas la ref. Donc La Grue Blanche, création 2026, du 12 au 14 juin dans la nouvelle caravane spectacle climatisée, c'est toujours sympa. Et à l'abordage Lily, création 2025, qui sera jouée du 19 au 21 juin sous le petit chapiteau tarif 7 euros. C'était CDLP, c'est dans les parages sur BAC FM, l'émission 100% locale. Restez avec nous.